Vous écoutez RFI, les 20h à Paris, 18h en temps universel.
RFI soir.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Pagé.
Bonsoir Guillaume Ouattara, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de ce journal, le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël.
Il est en vigueur, c'est ce qu'affirme le président américain Donald Trump, qui avait commencé par dire son mécontentement après sa violation ce matin. De fait, ce cessez-le-feu reste fragile, nous dira Paul Lonsin-Spinelli. En tout cas, c'est auréolé de cette victoire que le président américain se rend au sommet de l'OTAN ce soir à La Haye. Il veut s'assurer que ses alliés confirment leur engagement à consacrer d'ici 2035 au moins 5% de leur produit intérieur brut à leurs dépenses de sécurité, comme il le leur a demandé. Ce sera le dossier de ce 20h. Nous appellerons pour cela notre envoyé spécial à Washington, Pierre-Olivier.
On parlera aussi dans ce journal des airbags Takata.
Oui, en France, le gouvernement ordonne ce mardi l'immobilisation de 800 000 véhicules supplémentaires. C'est la suite de cette affaire d'airbags japonais Takata. Les cas d'explosion ont fait 18 morts en France. Et puis demain, c'est mercredi, jour des sorties cinéma dans l'Hexagone, nous irons voir Once Upon a Time in Gaza, un film réalisé par les frères Nasser, deux Palestiniens exilés à Marseille.
À la une donc, le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël en vigueur, et c'est ce qu'assure Donald Trump.
Oui, le président américain avait commencé par accuser les deux pays, Israël et l'Iran, et particulièrement son allié israélien, d'avoir violé ce cessez-le-feu, disant « Je ne suis pas content de l'Iran, mais je ne suis vraiment pas content d'Israël ». En Israël, aucune alerte n'a été signalée depuis 7h45 TU, et les dernières attaques à avoir été rapportées par l'armée iranienne datent, elles, de 5h30 TU. Mais la situation reste instable, et les dirigeants iraniens et israéliens se méfient. Paul Lonsin-Spinelli.
Les deux camps réagissent en fait en fonction de l'adversaire. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré cet après-midi que son pays respectera la trêve seulement si Israël le fait aussi. Côté israélien, Benjamin Netanyahou a reconnu que son pays avait détruit un radar à Téhéran aujourd'hui. Une façon selon lui de riposter au tir de deux missiles par l'Iran. Accusation fausse selon les autorités iraniennes. Après avoir discuté par téléphone avec Donald Trump, le premier ministre israélien assure que son pays s'est ensuite abstenu de réaliser de nouvelles frappes. Cette volatilité, elle s'explique notamment car aucun accord écrit n'a été signé, comme l'a rappelé à RFI Martin Quincet, spécialiste de la politique américaine au Moyen-Orient. Mais le président iranien l'annonce ce soir, son pays est désormais prêt à revenir à la table des négociations, notamment à propos du nucléaire.
Ces 12 jours de guerre auront fait au moins 610 morts en Iran, selon un nouveau bilan de Téhéran, et 28 morts en Israël. Ce cessez-le-feu, l'autorité palestinienne l'a salué et a exigé au nom de la stabilité régionale un cessez-le-feu incluant la bande de Gaza. Le chancelier allemand a renchéri, le moment est venu pour cesser le feu dans la bande de Gaza. Friedrich Merz s'exprimait à l'occasion d'une déclaration de politique générale pendant laquelle il a évidemment aussi parlé du cessez-le-feu Israël-Iran. À Berlin, la correspondance de Pascal Thibault.
Friedrich Merz a réitéré sa solidarité avec Israël qui, je cite, a le droit de se défendre. Le chancelier allemand a dénoncé le rôle négatif de Téhéran dans la région. Pour lui, les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël n'auraient pas pu avoir lieu sans le soutien de longue date de l'Iran en faveur du Hamas. Le chancelier a non seulement salué les frappes israéliennes les derniers jours contre l'Iran et son programme nucléaire, mais aussi les bombardements effectués par les États-Unis contre les sites de ce même programme.
Nous saluons l'appel du président américain en faveur d'un cessez-le-feu. S'il s'impose, alors il s'agira d'un développement très positif qui peut rendre le Moyen-Orient et le monde plus sûrs. Nous appelons l'Iran et Israël à répondre à cet appel du président américain.
Le chancelier allemand a par ailleurs estimé que le moment était venu d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, en parallèle de celui annoncé par les États-Unis entre Israël et l'Iran. Friedrich Merz a appelé Israël à un traitement humain des personnes vivant dans la bande de Gaza, en particulier les femmes, les enfants et les plus âgés. Ce matin, le responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a qualifié à Berlin la situation de catastrophique et regretté que l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza reste difficile. Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Et l'ONU dénonce l'utilisation de la nourriture comme une arme à Gaza. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté l'armée israélienne à cesser de tirer sur les personnes qui tentent de s'en procurer. depuis que la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par Israël et les États-Unis, a commencé ses distributions fin mai. Plus de 410 Palestiniens ont été tués alors qu'ils tentaient de rejoindre ces sites. Ça a encore été le cas pour 46 personnes aujourd'hui.
RFI 18h04 en temps universel. Direction maintenant les Pays-Bas pour le sommet de l'OTAN où Donald Trump est attendu ce soir.
Oui, le président américain doit rester à l'aise 24 heures, le temps de s'assurer que ses alliés investissent bien 5% de leur PIB dans la défense. Pour en parler, on rejoint notre envoyé spécial à Washington, Pierre-Olivier, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Après la trêve au Moyen-Orient, Donald Trump espère continuer sur sa lancée à la haie.
Oui, le président américain qui trouve manifestement le temps un peu long pendant son vol à bord d'Air Force One en direction des Pays-Bas, il n'a littéralement pas arrêté de poster frénétiquement des messages encenseurs sur son réseau social, des mots de félicitations qu'il s'adresse parfois à lui-même ou qu'il reposte depuis d'autres comptes. Dans ce déluge de messages, plus de 25 depuis qu'il a décollé, Donald Trump a pris un malin plaisir à partager à ses 10 millions d'abonnés la missive dithyrambique que lui a adressé le chef de l'OTAN avec certains mots en majuscules, un style qu'affectionne particulièrement le président américain et dont voici quelques extraits. C'est donc Marc Rutte qui écrit « Félicitations et merci pour votre action décisive en Iran. C'était vraiment extraordinaire et quelque chose que personne d'autre n'avait osé faire. Vous vous envolez vers un nouveau grand succès à La Haye. L'Europe va payer un prix énorme pour financer sa défense, comme elle le devait et ce sera votre victoire. » Donald Trump, qui ne boude pas son plaisir, vous l'imaginez, et qui, à la suite de ce poste, a d'ailleurs partagé, comme un message subliminal, la suggestion d'un de ses proches amis qui aimerait voir le président américain devenir le futur prix Nobel de la paix. Bref, c'est tout auréolé de son cessez-le-feu que Donald Trump arrive ce soir aux Pays-Bas, alors que le président iranien vient d'annoncer la fin de la guerre commencée il y a 12 jours.
Et fort de cette trêve, hein, encore fragile, on le répète, Donald Trump a donc l'intention de continuer sur sa lancée.
Oui, et le président plus sûr de lui que jamais. Tout a commencé ce matin sur les pelouses de la Maison-Blanche, ici à Washington, sous une chaleur écrasante, où Donald Trump a donné sa propre vision de l'article 5 du traité de l'OTAN, article fondamental selon lequel si l'un des 32 pays est attaqué, tous les autres doivent voler à son secours. Mais à la question « Êtes-vous attaché à cet article ?», Donald Trump a répondu « Ça dépend de votre définition. Il existe de nombreuses définitions de l'article 5 » avant d'ajouter « Mais je m'engage à être leur ami. »
Bref, Donald Trump fait du Donald Trump.
Oui, et en filigrane, il compte bien utiliser le contexte international qui s'est encore tendu un peu plus ces derniers jours et mettre toute sa nouvelle aura au service de son objectif, que chaque pays contribue à hauteur de 5% de son PIB au budget de défense de l'organisation, sans quoi il menace de ne pas prendre la défense des pays qui n'y participeraient pas. Donald Trump sait qu'il peut mettre la pression et compte bien s'en servir pour moissonner une deuxième victoire en 48 heures avant de rentrer demain soir à Washington.
Merci Pierre-Olivier en direct de Washington. À noter que, selon le chancelier allemand Friedrich Merz, qui qualifie d'historique ce sommet, si l'OTAN muscle sa défense, ce n'est pas pour faire plaisir aux États-Unis, mais pour faire face à la Russie qui, je cite, « menace activement et agressivement la sécurité et la liberté dans toute l'Europe ». La Russie qui a tué aujourd'hui dans ses bombardements sur l'Ukraine au moins 11 personnes et en a blessé une centaine. Ça s'est passé dans la région de Dniepropetrovsk, dans le centre-est. Donald Trump a affirmé ce mardi qu'il rencontrerait probablement le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du sommet de l'OTAN.
RFI, 1h08 à Bangkok, 18h08 en temps universel. La Thaïlande qui ferme donc sa frontière avec le Cambodge.
Oui, c'est la dernière étape dans l'escalade des tensions entre les deux voisins qui se disputent leurs frontières depuis des années. Le mois dernier, les tensions se sont muées en affrontement entre les deux armées et un soldat cambodgien est mort. Hier, Phnom Penh a annoncé un boycott d'une grande partie des produits thaïlandais, fruits et légumes, séries, films thaïlandais. Bangkok a donc répondu en coupant tous les points de passage terrestre entre les deux pays, bloquant touristes et commerçants. Sébastien Farcy.
Joe Lili vit en Thaïlande, dans la province de Sisaket, à 30 minutes de la frontière cambodgienne. Ces derniers jours, ce Britannique a vu la tension monter. Les troupes se sont amassées au sud de sa province jusqu'à la fermeture totale de la frontière lundi soir, ce qui chamboule l'économie de la zone.
Cambodians that live next to the border Beaucoup de Cambodgiens qui vivent près de la frontière viennent en Thaïlande pour vendre et pour acheter des produits. C'était très courant, mais maintenant ils ne peuvent plus faire ça. Les travailleurs migrants qui dépendent de leur travail en Thaïlande sont aussi bloqués, tout comme les touristes. Plus personne ne passe, sauf si c'est pour de l'aide humanitaire.
Un peu plus au sud-ouest, des dizaines de touristes sont là bloqués sur le point de passage d'Ariana Pratet. Ils se trouvent sur l'axe très fréquenté entre Bangkok et les fameux temples d'Angkor Wat au Cambodge. Le différend frontalier entre les deux pays date de la décolonisation de l'Indochine dans les années 50, mais la situation était relativement calme depuis 15 ans. Tout s'est enflammé il y a un mois avec la mort d'un soldat cambodgien et a empiré quand le premier ministre du Cambodge a diffusé une conversation privée avec son homologue thaïlandaise. Depuis, les discussions entre les deux royaumes sont complètement à l'arrêt.
L'actualité en France, c'est d'abord Emmanuel Macron qui convoque un sommet sur la Nouvelle-Calédonie.
Un an après les émeutes qui ont fait 14 morts et plus de 2 milliards d'euros de dégâts, le président français invite l'ensemble des acteurs de Nouvelle-Calédonie à un sommet politique, ce serait le 2 juillet. Objectif, sortir le territoire du Pacifique de la crise politique et économique. Les émeutes avaient éclaté lors d'une mobilisation contre un projet de réforme du mode de scrutin local. Les indépendantistes avaient accusé l'exécutif de vouloir minorer la population autochtone kanak.
Le gouvernement français qui ordonne l'immobilisation de 800 000 véhicules supplémentaires.
Oui, et on parle à nouveau des Outre-mer puisque cette immobilisation est ordonnée suite à cette affaire d'explosion d'airbags de la marque japonaise Takata. Des airbags qui ont fait plusieurs morts en France, 16 dans les Outre-mer, 2 en métropole. Le dernier, c'était à Reims, dans l'ouest de l'Hexagone. Il y a 2 semaines. Justine Fontaine.
En tout, 1 700 000 véhicules en France n'ont donc désormais plus le droit de rouler. Cela concerne des voitures de toutes marques équipées d'airbags Takata, en particulier si elles ont été construites avant 2011 ou si elles circulent en Outre-mer et en Corse. 18 personnes sont mortes en France, principalement en Outre-mer, à cause de ces airbags défectueux. Des dizaines d'autres décès ont été recensés à travers le monde depuis la fin des années 2000. Pour proposer des prix plus bas que ses concurrents, la marque japonaise Takata a utilisé un gaz qui, avec le temps, la chaleur et l'humidité, peut faire éclater l'airbag et projeter des pièces métalliques dans le corps des occupants des voitures, jusqu'à les tuer. Dès 2014, des salariés de Takata aux États-Unis avaient lancé l'alerte. Sous le coup de lourdes amendes et de nombreux procès, la marque japonaise a fini par faire faillite en 2017. Mais certains constructeurs et l'État ont beaucoup trop tardé à réagir, dénoncent aujourd'hui des associations de victimes et de consommateurs.
En France toujours, et c'est une première, la justice fait le lien entre les algues vertes et le décès d'un jogger.
Oui, et condamne l'État. La cour d'appel de Nantes, dans l'ouest de la France, a condamné l'État à indemniser la famille de Jean-René Auffray, 50 ans, retrouvé mort en 2016 dans un bassin envahi par les algues vertes. La cour a estimé que l'État était fautif car il n'a pas suivi les réglementations européennes et nationales destinées à protéger les eaux de toute pollution d'origine agricole. Or, ces algues vertes sont à plus de 90% d'origine agricole, selon la Cour des comptes, et elles émettent un gaz mortel à forte dose quand elles se décomposent.
En politique, François Bayrou visé par une motion de censure.
Le Premier ministre français rencontrait ce mardi les partenaires sociaux après l'échec hier soir du conclave sur les retraites. Enfin, il rencontrait ceux qui ont participé au conclave. Jusqu'au bout. Mais il est maintenant visé lui-même par une motion de censure du Parti Socialiste. « Vous avez pris des engagements qui n'ont pas été tenus », lui a lancé le président du groupe PS à l'Assemblée. François Bayrou, soutenu par le président de la République Emmanuel Macron, qui, en déplacement à Oslo, a encouragé ardemment les partenaires sociaux à aller au-delà des désaccords. Le patron du MEDEF a dit de son côté être toujours dans l'esprit d'aboutir.
Et puis à 21h10, notez bien le rendez-vous 21h10 heure de Paris, c'est Danielle Obono, la députée La France Insoumise, qui sera l'invitée de Mardi Politique, l'occasion pour la députée LFI de revenir sur cette réforme des retraites. En attendant, demain, c'est mercredi, jour des sorties cinéma en France.
Et RFI vous propose d'aller voir Once Upon a Time in Gaza, un film réalisé par les frères Nasser, deux Palestiniens exilés à Marseille. C'est leur troisième long métrage. Il raconte l'enfermement tragique de 3 personnes à Gaza en 2007, sur l'écran, désespoir et humour. Isabelle Chenu.
Tu as 200 habas, Farid. What's Upon a Time in Gaza a été écrit avant les attaques meurtrières du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et le massacre de la population de Gaza par les bombes israéliennes. Nous sommes en 2007, Yahya, timide vendeur de falafel, tient la boutique d'Osama, dont le commerce sert de couverture à un trafic de stupéfiants et autres opiacés, dont la population semble faire une consommation effrénée, tant la situation est intenable. Après l'assassinat d'Osama par un policier corrompu, Yahya, figure d'une jeunesse condamnée à vivre dans une prison à ciel ouvert, se voit proposer le rôle héroïque du premier film d'action produit dans la bande de Gaza, financé par le ministère de la culture à la gloire de la résistance contre l'ennemi sioniste. Film sans budget ni effets spéciaux, mais avec de vraies armes, seuls biens accessibles, blocus oblige. What's Upon a Time in Gaza intègre en permanence l'horreur et la satire politique, un film pour témoigner malgré tout de la survie, de la créativité et de l'humour d'un peuple à travers son cinéma.
Isabelle Chenu. Et puis Guillaume, l'intelligence artificielle est décidément partout, même au château de Versailles, figurez-vous. Les visiteurs peuvent désormais discuter avec les statues des jardins du célèbre château. Un QR code sur chacune de ces statues permet de lancer une conversation avec elles. Et elles répondent, enfin elles sont censées répondre aux questions que les touristes et autres visiteurs leur posent sur leur histoire. Elles répondent en français, en anglais et en espagnol. Trois langues, c'est bien, mais c'est quand même moins que sur RFI.
C'est vrai.
Et la suite de RFI Soir, c'est avec vous, Guillaume Ouattara.
Merci beaucoup, Christophe Paget. C'était le grand journal du soir sur RFI.
RFI Soir.
Guillaume Ouattara.
18h16 en temps universel, la suite d'RFI Soir. Et dans les prochaines minutes, nous serons avec nos confrères du Temps, le journal suisse, et ce témoignage bouleversant, celui d'un Palestinien d'Israël, dont une grande partie de la famille est morte sous les bombes de l'Iran. En France, le fléau de la drogue, alors qu'après-demain, l'Agence des Nations Unies chargée de la lutte contre la drogue et la criminalité publiera son rapport annuel sur ce fléau dans le monde, eh bien nous vous emmènerons au cœur d'un quartier marseillais gangréné par le trafic. Ça sera le reportage du soir, mais pour l'heure, voici les sports. Et c'est avec vous, Éric Mamrud, bonsoir.
Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde.
On commence par le basket et l'équipe de France qui est en demi-finale de l'Euro féminin.
Oui, les vice-championnes olympiques en titre ont fait respecter leur statut face à la Lituanie cet après-midi à Athènes. Large victoire des Bleus, 83-61. Elle perpétue ainsi la tradition, puisque depuis 2009, l'équipe de France s'est toujours hissée en demi-finale de l'Euro féminin. Prochain adversaire vendredi, soit l'Espagne, soit la République tchèque qui s'affronteront demain. L'autre affiche des demi sera connu à l'issue des matchs, Italie-Turquie et Belgique-Allemagne.
En basket masculin, cette fois, on connaîtra ce soir le nom du club champion de France.
Ce sera soit Monaco pour la troisième saison consécutive, soit Paris pour une grande première. Les deux équipes sont à égalité de partout lors de la finale. Monaco menait 2-0, ayant en effet réussi à revenir en remportant ses deux matchs à domicile. Ce soir, retour à Paris pour un match 5 décisif que l'équipe monégasque saura gérer. C'est l'avis en tout cas de son arrière international, Eli Okobo, au micro de DAZN.
On va partir sur un match 5 à l'extérieur, ce sera une grande première. Ça va être fun et il faudra enjoy toutes les 40 minutes. Il me tarde. On a l'expérience quand on était à l'ASVEL. On a eu 3 matchs 5 en Euroleague déjà, donc on a cette expérience-là. Il va falloir l'utiliser pour jouer à l'extérieur face à une belle salle, un bon public et une équipe qui lâche rien pendant 40 minutes.
Eli Okobo, déjà champion de France en 2023 avec l'ASVEL à l'issue d'un match 5. Paris-Monaco, ultime match de la finale du championnat de France. Coup d'envoi dans 11 minutes 40 secondes.
Eh bien, c'est très précis. On passe au foot avec le mondial des clubs et la course aux huitièmes de finale qui se poursuit.
Après les qualifications hier du Paris Saint-Germain et de l'Inter Miami qui s'affronteront dimanche, mais aussi des Brésiliens de Botafogo et de Palmeiras, 4 autres équipes atteindront le top 16 ce soir. Aux États-Unis, dans le groupe C, une place qualificative est déjà assurée pour le Bayern Munich. En revanche, la seconde place du groupe se jouera entre le Benfica Lisbonne, opposé tout à l'heure aux Bavarois du Munich, donc, et Boca Juniors, les clubs argentins qui pour espérer aller en huitième de finale, devra dominer les Néo-Zélandais d'Auckland à Nashville et espérer dans le même temps une défaite des Lisboètes. Coup d'envoi de ces deux rencontres du groupe C dans trois quarts d'heure.
Et puis un peu plus tard, on suivra le dénouement du groupe D.
Là encore, les Brésiliens de Flamengo ont déjà leur qualification en poche. L'autre huitième de finaliste de ce groupe sortira du duel entre Chelsea et l'Espérance Tunis, prévu à Philadelphie. Les Tunisois contraints de battre les Anglais pour rester dans le tournoi. Et ils pensent bien pouvoir créer l'exploit fort de leur récent succès samedi face à Los Angeles. Confirmation avec l'entraîneur de l'Espérance Tunis, Mer Kanzari.
Ce ne sera pas un match comme les autres. Nous sommes préparés et devons répondre aux attentes de nos dirigeants, de nos supporters et du public tunisien. Ce sera un match historique. Nous serons bien préparés, surtout mentalement. Tout le monde attend ce match avec impatience et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. J'espère que nous ferons le nécessaire. C'est un match très important pour nous sur de nombreux aspects. On a un bon niveau de jeu et on espère pouvoir le prouver.
Chelsea Espérance Tunis, coup d'envoi à 1h, temps universel.
Et puis en tennis, Loïs Boisson ne jouera pas le prochain tournoi de Wimbledon.
La révélation du dernier Roland-Garros, demi-finaliste surprise et apparemment moins férue du gazon anglais que de la terre battue parisienne. La Française en effet est éliminée au premier tour du tournoi de qualification de Wimbledon, tout à l'heure défaite en trois manches face à la canadienne Carson Bronstein, 197e mondiale, 6-2, 6-7, 6-4. C'était le tout premier match en carrière de Loïs Boisson sur herbe, visiblement très mal à l'aise encore sur cette surface. Elle n'avait pas reçu d'invitation de la part des organisateurs pour intégrer directement le grand tableau de Wimbledon qui débutera lundi prochain.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Eric Mamrut. Et le reportage ce soir nous emmène en France, puisque le 26 juin prochain, dans deux jours, l'Agence des Nations Unies chargée de la lutte contre la drogue et la criminalité publiera son rapport annuel sur ce fléau dans le monde. Alors toute la semaine, nous vous proposons une série de reportages en France où, comme partout ailleurs, le trafic et la consommation de stupéfiants, notamment la cocaïne, sont en hausse constante. Une situation dont pâtissent aussi les riverains des villes concernées. Dans le sud de la France, à Marseille, certains quartiers vivent sous pression permanente. La pression des réseaux de trafic, celle des policiers, une pression sociale. Alors comment fait-on face quand la violence s'invite jusque dans les halls d'immeubles ou à la sortie de l'école? Rencontre avec ces habitants qui vivent cette réalité au quotidien, entre peur, colère et sentiment d'abandon. C'est un reportage de Siam Spencer.
Dans ce quartier au nord de Marseille, le point de deal vient d'ouvrir. Les cris des guetteurs résonnent toute la journée sous les fenêtres de Nadia. Mais il y a 2 ans, le trafic a fait une irruption beaucoup plus violente dans sa vie. À l'époque, son fils travaille une journée pour le point de deal en bas de chez elle. Elle l'empêche d'y retourner. C'est elle et son mari qui en paieront les frais, passés à tabac dans leur hall.
6-7 sur une personne. Et du sang et tout.
J'ai porté plainte, mais ils ont rien fait.
Mais maintenant, ils viennent par exemple chez moi et ils me disent « Laisse ta porte ouverte, je peux pas dire non. » Tu dis non, ils te ramènent Chicago ici. J'ai pas. Moi, quand je suis venue ici, je savais pas qu'il est comme ça. C'est trop.
À la sortie de l'école, à quelques dizaines de mètres du quartier, un groupe de mamans raconte aussi leur sentiment d'impuissance face au trafic.
Oui, c'est lourd.
Dali est éboueuse, c'est la nuit en allant au travail qu'elle a le plus peur.
Je me lève à 4h du matin, je sors en pleine nuit. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas à qui je peux m'attendre, je ne sais pas sur qui tomber non plus. Hein. Mais après, ça fait 5 ans, j'ai fait toute ma scolarité ici, primaire jusqu'au lycée. La plupart des jeunes ils sont autour de moi ici, je les ai vus naître, je les ai vus grandir. Et je vois que la société ne leur donne aucune chance de se donner en valeur et de travailler. Je trouve que c'est injuste. Ils ont besoin, ces jeunes.
Une injustice également pour ces habitants du quartier qui se sentent pris en étau entre les opérations de police et le deal.
La problématique, c'est quand la police vient dans le quartier, je comprends qu'ils font leur boulot. Mais ils viennent toujours à 16h30 à la sortie des écoles. Ça fait qu'on se fait gazer. Les enfants sont en plein milieu de tout ce raffut. Et psychologiquement pour les enfants,
on se retrouve en otage entre les deux, que ce soit entre les jeunes et que ce soit entre les policiers. On a des contrôles qui sont assez durs avec les jeunes, que ce soit avec les adultes. Hein. Donc voilà. au lieu d'être, de se sentir soutenu, on se sent au contraire comme étant coupable nous-mêmes. Donc non.
Comme la plupart des habitants interrogés, ces mères de famille ne voient pas de solution réelle au trafic de drogue ou aux conditions dans lesquelles elles vivent. Pour elles, seule solution, trouver un autre appartement. Tâche compliquée alors que les prix du loyer dans le privé sont en constante augmentation.
Et la une du jour, elle nous est proposée par Le Temps qui signe cet article. Une famille palestinienne d'Israël anéantie par l'Iran. Pour l'amour de Dieu, arrêtez la guerre. C'est le recueil d'une parole, celle de Raja Katib, un palestinien citoyen d'Israël qui a perdu son épouse et deux de ses trois filles dans une frappe iranienne sur Israël. Un père de famille cultivé, intégré à la société israélienne. Un homme de paix, polyglotte, amoureux de l'Italie, de la justice et de sa famille. Et depuis le vendredi 13 juin, il est un survivant puisque sa maison au nord d'Israël a été frappé par un missile balistique iranien. En quelques secondes, il a perdu sa femme, ses deux filles et sa belle-sœur. Bonsoir Aline Jacoté.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service international OTAN, ancienne correspondante en Israël. C'est vous qui avez recueilli cette parole. Il vous parle, Raja Katib, depuis les ruines de sa maison, avec une voix que vous décrivez comme étranglée par les larmes. En tant que journaliste, comment vous avez vécu cet échange face à une telle douleur qui était très nue ?
Alors, c'est pour moi essentiel de recueillir ce genre de paroles parce que ça nous rappelle toujours que on fait beaucoup d'analyses géopolitiques, etc. Les journalistes, on est beaucoup aussi dans le commentaire de l'actualité, mais il faut jamais oublier l'humanité des gens. Et cette parole, elle est vraiment rare et précieuse parce qu'elle dit aussi toute la complexité de la situation. On a l'habitude de penser que c'est les Israéliens juifs qui en Israël seraient victimes en fait des tirs de missiles iraniens. Ben non, il y a aussi une forte minorité palestinienne, des gens qui ont la nationalité israélienne et en l'occurrence qui sont aussi victimes de cette guerre. Et c'était important pour moi de rappeler à la fois l'humanité mais la complexité de la situation.
Parce que ce drame, il est survenu dans une région arabe-israélienne, cible rare des frappes iraniennes. Ce contexte géographique, il dit beaucoup de cette guerre.
Alors, justement, il dit beaucoup parce que ça n'est pas une cible. Probablement que ce tir était une erreur. La plupart des missiles iraniens qui sont tombés en fait en Israël sont tombés sur des zones peuplées majoritairement par des juifs parce que c'est principalement les centres de commandement militaire aussi qui étaient visés. Bien sûr, il y a aussi eu des hôpitaux comme celui de Be'er Sheva, Soroka qui a été visé. Mais disons, dans l'ensemble, c'est pas les zones palestiniennes qui sont visées par ce genre de tir. Donc là, on peut vraiment parler quelque part d'une atroce malchance, même si tout missile, bien entendu, est une malchance, mais là, voilà. Par contre, ce qui se dit derrière, c'est tout l'enjeu aussi de l'abri, en fait, des Palestiniens d'Israël, de leur perception de la guerre. C'est la première fois qu'une famille palestinienne comme ça est visée par un tir de missile. Dans les guerres précédentes, celle de Gaza, celle contre le Hezbollah, les Palestiniens d'Israël étaient un petit peu plus tranquilles parce qu'en fait, ils savaient que c'était leurs concitoyens juifs qui étaient visés avant tout.
Vous mentionnez un soutien, et pas n'importe lequel, celui du Premier ministre Netanyahou, c'est assez rare. Comment on peut interpréter cette réaction politique dans un pays où la parole raciste, vous le dites, s'est largement libérée depuis le 7 octobre ?
Alors, tout dépend dans les guerres de la perception qu'on a des citoyens. Là, en l'occurrence, en fait, cet homme palestinien d'Israël était avant tout perçu comme une victime israélienne parce qu'en fait, le discours du Premier ministre Netanyahou visait en fait à réunir toute la nation israélienne face à un ennemi extérieur qui est l'Iran. Mmh. On imagine bien que si cet homme avait perdu une partie de sa famille à Gaza, personne ne serait venu lui présenter de la part du gouvernement israélien, personne ne serait venu lui présenter ses condoléances. Donc, ces Palestiniens d'Israël, ils sont tantôt avant tout palestinien quand il s'agit d'une guerre contre les Palestiniens et tantôt avant tout israélien quand il s'agit d'un ennemi extérieur. C'est dire toute la complexité de leur situation.
Aline Jacoté, vous le racontez dans cet article, non seulement des Palestiniens d'Israël mais aussi des Juifs israéliens sont venus lui montrer des marques d'hommage, des témoignages de condoléances. Comment il faut comprendre ce soutien très large ?
Alors, la société israélienne est extrêmement diversifiée, puis il y a quand même des mouvements pour la paix qui sont très importants. Donc, je pense qu'il faut d'abord pouvoir le dire et dire aussi que le gouvernement israélien actuel ne représente pas une partie de la population. Cet homme, il est perçu vraiment comme une victime de la guerre contre un ennemi qu'Israël identifie depuis des années, sur laquelle il y a une rhétorique très importante. Donc, je pense que ça explique aussi l'ampleur du mouvement de soutien. C'est non seulement l'ampleur de sa perte personnelle qui a ému les gens, mais aussi le contexte politique dans lequel survient cette perte épouvantable qui a frappé cette famille.
Merci beaucoup Aline Jacoté, chef du service international du temps, ancienne correspondante en Israël. C'est évidemment un témoignage à retrouver sur le site internet du temps, cette parole, ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Allez, il est quasiment 20h30 ici à Paris, dans moins de 30 secondes. Afrique Soir, première édition avec Zéphirin Kouadjo. Et puis à 21h-19h, temps universel, ça sera le journal présenté par Adrien Delgrand, suivi 10 minutes plus tard de Mardi Politique. Ce soir, c'est la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, qui est l'invitée de RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Bénin, le dernier mandat de Patrice Talon se termine dans 10 mois. Aucun dauphin n'a encore été désigné et son nom ne sera pas dévoilé avant le 12 octobre. Qui sera donc le candidat de la majorité? Comment envisagez-vous cette élection sans le président sortant?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.